Salut à tous, c'est Gollum. Vous écoutez Retour vers le classique. Dans cet épisode, on va parler de mon précieux.
Hop, 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 désolé Gollum, mais c'est peut-être mieux si c'est moi qui présente mon émission. On reprend 3-4 générique. Salut à tous, c'est Augustin Lefebvre, journaliste à Radio Classique. Vous écoutez Retour vers le classique, le podcast qui réconcilie musique savante et pop culture. Dans cet épisode, on va se demander qui est le véritable Seigneur de l'Anneau. Si je vous parle d'une œuvre autour d'un anneau maudit qui rend surpuissant, d'hommes, de nains, de dragons, une œuvre très longue en 4 parties qui a des admirateurs dans le monde entier, eh bien, vous penserez sûrement au Seigneur des Anneaux de Tolkien. Et vous aurez raison. Mais il y a une autre bonne réponse. Cette description, elle s'applique aussi à l'Anneau du Nibelung, une série d'opéras de Wagner. Et pour cause, il y a de très nombreux points communs entre les deux. Malgré ces points communs, Tolkien lui-même était très énervé quand on lui citait Wagner. À vrai dire, c'est arrivé une seule fois, en tout cas, c'est la seule qui nous soit parvenue. Dans une lettre, Tolkien parle des erreurs que contient la traduction en suédois du Seigneur des Anneaux, et à propos de la présentation qu'en fait le traducteur qui ose le relier à Wagner, il a ce commentaire lapidaire et définitif « Les deux anneaux sont ronds, la ressemblance s'arrête là ». Le problème, c'est que non, la ressemblance ne s'arrête pas là, on va le voir. Alors, pourquoi Tolkien refusait-il de reconnaître ce qui semble être une évidence ? Pourquoi est-ce qu'il n'aimait pas que l'on fasse le rapprochement entre les deux anneaux ? Nous partons pour un épisode un peu plus long que d'habitude, une exploration des œuvres des pères et grands-pères de la pop culture. Préparez-vous à monter sur le ring pour un combat entre deux poids lourds. Commençons par présenter les deux combattants. À ma gauche, Richard Wagner. Wagner, c'est l'un des plus grands compositeurs du 19e siècle. Il a révolutionné l'opéra avec l'immense projet qui a occupé près de la moitié de sa vie, la tétralogie. La tétralogie, c'est un ensemble de 4 opéras, un prologue et 3 journées, c'est comme ça qu'il les désigne, L'Or du Rhin, La Valkyrie, Siegfried et Le Crépuscule des Dieux. C'est l'histoire de la lutte pour le pouvoir entre nains, hommes et dieux, le pouvoir symbolisé par un anneau magique. Pour bien comprendre ce qui va suivre, je vais essayer de vous résumer tout ça. Sur scène, ça dure 15 ou 16 heures, là ça va prendre 5 minutes. Je présente donc d'ores et déjà mes excuses aux Wagneriens et à ceux qui n'aiment pas les spoilers. Wotan, le roi des dieux, se fait construire un palais. Ses ouvriers sont 2 géants à qui il a promis en paiement sa belle-sœur. Mais bon, il s'avère que c'est une mauvaise idée, alors Wotan cherche une autre solution. C'est Logue, le maître du feu, qui la trouve. Il a entendu parler d'un Nibelung, c'est-à-dire un nain, qui possède un anneau magique. Ce nain s'appelle Alberic et, au tout début de la tétralogie, il est allé voir les 3 filles du Rhin, des genres de sirènes, pour les séduire. Sauf qu'Alberic n'est pas très joli et qu'elle le rejette. Alberic préfère alors s'intéresser au trésor qu'elle garde ses filles du Rhin, l'or du Rhin. Celui qui renonce à l'amour pourra en faire un anneau magique. C'est ce que fait Alberic. Il embarque le trésor et se sert de sa nouvelle puissance pour devenir le maître des nains, le maître des Nibelungen. Il les force à travailler sous ses ordres dans une mine. Et c'est là, dans cette mine, que Wotan et Logue réussissent à le capturer. les deux divinités obligent le nain à se séparer de son or. Albéric maudit alors l'anneau. Au début, Wotan comptait garder cet anneau pour lui, mais il finit par s'en séparer lorsqu'il se rend compte de la malédiction et il le donne avec le reste de l'or aux deux géants. Les dieux ont payé, ils peuvent s'installer dans leur nouveau château, fin de l'or du Rhin. Les autres opéras suivent les aventures des descendants de Wotan et d'Albéric. Les enfants de Wotan dans La Valkyrie, sur laquelle je passe rapidement puisque l'anneau n'y apparaît pas, il est seulement évoqué, son petit-fils Siegfried dans les 3e et 4e parties. Dans l'opéra qui porte le même nom, Siegfried, on découvre le héros qui est élevé par Mime. Mime, c'est le frère d'Albéric, ce qui va poser problème. Parce que Mime espère que son protégé sera assez fort pour tuer Fafner, l'un des deux géants qui est toujours en possession de l'anneau. Détail, entre les deux, Fafner s'est transformé en dragon. Siegfried réussit à le tuer et devient possesseur de l'anneau sans en connaître les pouvoirs. Il tue aussi Mime qui voulait l'empoisonner pour récupérer l'anneau. L'opéra se conclut quand Siegfried réveille Brünnhilde, la fameuse Valkyrie qui donne son nom à l'épisode 2. Elle avait été condamnée à dormir sur une montagne entourée par un feu. Syndrome de la Belle au bois dormant, il tombe fou amoureux. On en arrive au Götterdämmerung, en français le crépuscule des dieux. Cette 4e partie raconte une sombre machination amoureuse pour séparer Siegfried et Brünnhilde à base d'usurpation d'identité. Celui qui tire les ficelles, c'est Hagen, le fils d'Albéric. Celui-ci espère toujours récupérer son anneau. Pour la faire courte, ça tourne mal et le cycle se termine avec un grand feu, le bûcher funéraire de Siegfried dans lequel se jette Brünnhilde désespérée. Les flammes atteignent le Valhalla, la demeure des dieux, et le Rhin sort de son lit pour que les filles du Rhin puissent reprendre l'anneau qui était toujours en possession de Siegfried. L'anneau retrouve la place qu'il avait à l'origine dans le Rhin. Fin du règne des dieux, début de celui des hommes et fin de la tétralogie. Le cycle est présenté pour la première fois intégralement en 1876 à Bayreuth en Allemagne, une salle de concert spécialement construite pour que Wagner applique son concept d'œuvre d'art totale. Et depuis, les mises en scène se succèdent et l'influence de son œuvre est immense. À ma droite, John Ronald Reuel Tolkien, l'un des plus grands écrivains du XXe siècle. La journée, ce Britannique est professeur de langues anciennes et de littérature britannique. La nuit, il crée des langues imaginaires. Et pour leur donner une existence, ils se mettent à écrire. Des centaines et des centaines de pages sur un univers mythique qui ont pour l'immense majorité été publiés à titre posthume par son fils Christopher. Mais deux de ses œuvres les plus importantes sont parues de son vivant, Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, parus en trois tomes entre 1954 et 1955, La Fraternité de l'Anneau, Les Deux Tours et Le Retour du Roi. C'est un immense succès, ils font partie des livres les plus vendus au monde. Et l'influence de Tolkien sur la pop culture est elle aussi immense. Il est devenu la figure tutélaire d'un genre littéraire, la fantasy. Le Britannique revient régulièrement sur le devant de la scène culturelle. Au cinéma, avec l'adaptation du Seigneur des Anneaux au début des années 2000, puis celle du Hobbit, puis un biopic qui lui a été consacré l'année dernière. Et une exposition lui est actuellement consacrée à la Bibliothèque nationale de France à Paris jusqu'au 16 février. Si vous pouvez, allez-y, c'est magnifique. Son cycle raconte d'abord comment Bilbo le Hobbit trouve un anneau magique. Les Hobbits, ce sont des petites créatures assez semblables aux humains. Elles sont juste moins grandes et elles ont les pieds poilus. Puis, dans Le Seigneur des Anneaux à proprement parler, la quête de son héritier Frodo pour détruire cet anneau. Il sera accompagné par des nains, des elfes et des hommes. Et des Hobbits, n'oublions pas les Hobbits. Le grand méchant Sauron lancera contre lui ses hordes maléfiques, notamment les 9 Nazgûl, pour mettre fin à sa quête. Car, dans cet anneau, Sauron a placé une partie de son pouvoir.
Sur les terres du Mordor, dans les flammes de la montagne du destin, Sauron, le seigneur des ténèbres, forgea en secret un maître anneau pour gouverner tous les autres. Dans cet anneau, il déversa sa cruauté, sa malveillance et sa volonté de dominer toute vie. Un anneau pour les gouverner tous.
Une bague ronde en or, voilà le premier point commun entre Tolkien et Wagner. L'anneau et ses pouvoirs. Celui de Frodo permet de devenir invisible, mais c'est surtout le maître anneau. Chez Wagner, c'est grâce au ring qu'Alberic réduit les autres nains en esclavage. Cette puissance de l'anneau fait qu'il est recherché par tous et qu'il tente de nombreux personnages. Dans Le Seigneur des Anneaux, le magicien Gandalf réussit à refuser de le porter malgré le pouvoir qu'il pourrait en tirer. Le sombre Gollum veut à tout prix récupérer son précieux qui lui a été dérobé et le guerrier Boromir essaye de s'en emparer.
Je ne requiers que la force de défendre mon peuple. Si vous acceptez de me prêter l'anneau.
Non.
Pourquoi reculez-vous? Je ne suis pas un voleur.
Vous n'êtes pas vous-même.
Quelle chance croyez-vous donc avoir? Ils vous trouveront. Ils prendront l'anneau. Et vous les supplierez de vous achever sans attendre. Pauvre vous! Et l'anneau n'est à vous que par un malheureux hasard. Il devrait être à moi. Donnez-le-moi! Donnez-le-moi!
Non!
Donnez-le-moi!
Dans la tétralogie, ceux qui convoitent l'anneau, ce sont entre autres Alberic le nain, son frère Mim, le fils d'Alberic, Hagen, les géants Fasolt et Fafner, et Wotan, le roi des dieux. Mais une fois qu'on le possède, cet anneau n'apporte nulle joie. Et son seigneur tombe dans la désolation, la misère et la peur. Sméagol le Hobbit devient Gollum, une créature malfaisante, Frodo tombe progressivement sous son emprise, et Bilbo ne veut pas s'en séparer.
N'est-ce pas curieux? Oui, après tout, pourquoi pas? Pourquoi ne le garderais-je pas?
Vous devriez laisser cet anneau ici, je pense, Bilbo. Est-ce si difficile?
Mais non. Oh, si. Maintenant qu'on y est, je n'ai pas envie de m'en séparer. Il est à moi, je l'ai trouvé, il est venu à moi!
On dirait que les personnages de Tolkien sont sous le coup de la malédiction d'Alberic. Quand il perd l'anneau dans l'or du Rhin, il chante « Le seigneur de l'anneau sera l'esclave de l'anneau ». Les deux anneaux possèdent donc des caractéristiques communes. Mais on retrouve aussi des péripéties similaires autour de cet anneau. Par exemple, dans les deux récits, on retrouve l'histoire de quelqu'un qui prend possession de l'anneau et qui est immédiatement tué par un membre de sa famille jaloux. Le meurtrier finit par se cacher dans une grotte au loin pendant des années et devient un monstre physiquement.
Parce que c'est mon anniversaire et que je le veux.
Alors ça, c'est la scène dans laquelle Sméagol tue son cousin Déagol qui a trouvé l'anneau dans une rivière. Il va ensuite se réfugier avec son précieux dans les montagnes de brume jusqu'à ce que Bilbo arrive et trouve l'anneau. Chez Wagner, c'est la même chose. « Là, on entend le géant Fasolt dire que l'anneau lui appartient. « Je le tiens, il est à moi ». Mais son grand frère Fafner ne l'entend pas de cette oreille. Il tue Fasolt et s'enfuit avec le trésor. Il se transforme en dragon pour le garder jusqu'à l'apparition de Siegfried dans le troisième opéra. Un dragon qu'on retrouve, soit dit en passant, dans le Hobbit. Il s'appelle Smaug et lui aussi garde un trésor. Dernière ressemblance, la destruction de l'anneau. Chez Wagner, il est purifié par le feu sur le bûcher qui consume Siegfried et Brunhilde. Puis il retourne dans son élément originel, le Rhin déborde pour l'emporter. Chez Tolkien, l'anneau est détruit par les laves de la montagne du destin, là où il a été forgé. Dans les deux cas, un être sacrifie tout pour tenter de le récupérer, le nain Hagen chez Wagner, Gollum chez Tolkien, Gollum qui tombe avec son précieux dans les flammes. La destruction de l'anneau précipite la destruction du Valhalla, la demeure des dieux, et celle de la Tour Sombre, le repère de Sauron. Bilan des deux histoires, les hommes prennent leur destin en main. Ça, ce sont pour les principales ressemblances, mais on en trouve aussi dans les détails des intrigues. On retrouve un concours d'énigmes, une épée brisée et reforgée, une fille guerrière qui s'appelle Éowyn ou Brunhilde qui désobéit à son père. Bref, on peut faire des rapprochements entre les caractéristiques des anneaux, entre la structure des œuvres et entre certains de leurs détails. Alors, ça fait beaucoup. Pourquoi est-ce que Tolkien refusait de faire le parallèle entre les deux cycles ? Pour répondre à cette question, revenons à la biographie de Tolkien. Déjà, il faut dire qu'il connaissait Wagner et ses opéras, mais il ne le tenait pas en très haute estime. Voilà ce qu'on peut lire dans la biographie de Tolkien par Humphrey Carpenter. Il récita à des amis des passages de Beowulf, Sir Gawain et le Chevalier Vert, et raconta d'horribles épisodes de la Volsunga saga norroise avec, en passant, un sarcasme à l'intention de Wagner dont il méprisait l'interprétation des mythes. Là, on touche un point crucial, les mythes. S'il y a toutes ces ressemblances entre les deux œuvres, c'est parce que les deux artistes reprennent les mêmes sources. Un ensemble de mythes, légendes et poèmes dans lesquels on retrouve Wotan et Logue sous des noms qui nous sont plus familiers, Odin et Loki. Pour Wagner, on peut citer la chanson des Nibelungen qui raconte l'histoire de Siegfried, la Volsunga saga et les deux Eddas, l'Edda en prose et l'Edda poétique en vers. Wagner reprend tous ces textes et tente de les unifier. L'anneau, il vient de l'Edda poétique. On y trouve un poème qui s'appelle le Reginsmal, dans lequel un nain est contraint de donner son or et un anneau au dieu qu'il maudit. Mais l'anneau, c'est un artefact assez fréquent dans les textes anciens. Si on remonte à l'Antiquité, on trouve l'anneau dans la République de Platon, l'anneau de Gygès. C'est l'histoire d'un simple berger qui trouve un anneau qui le rend invisible et qui s'en sert pour séduire la femme de son roi, assassiner celui-ci et prendre le pouvoir. Tolkien, lui aussi, connaissait les textes mythologiques, mais lui n'a pas cherché à en faire une réécriture, il s'est inspiré de tel ou tel épisode pour écrire son œuvre. Les Eddas, la Volsunga saga font partie de ses inspirations, au même titre que les histoires des Chevaliers de la Table Ronde ou que Beowulf, gigantesque poème épique qu'il a contribué à faire connaître. Mais lui était un universitaire, un expert des langues, et il pouvait lire ses mythes dans leur langue originale, contrairement à Wagner. Wagner, lui, ne s'appuyait que sur des traductions et cela a pu amener à quelques erreurs, de quoi énerver Tolkien. Si on ajoute à ça les modifications faites consciemment par Wagner dans les rapports originaux entre les personnages pour tout faire tenir dans un opéra, eh bien on aura sans doute la raison du mépris de Tolkien pour le compositeur. Pour résumer, on a deux histoires qui présentent des points communs, mais c'est parce qu'elles s'inspirent toutes les deux des mêmes sources. On pourrait donc arrêter là notre enquête et conclure que la phrase de Tolkien « Les deux anneaux sont ronds, la ressemblance s'arrête là » est un peu expéditive, certes, mais justifiée que le ring de Wagner n'a aucun lien avec celui de Tolkien. Et pourtant, il reste un élément perturbant. Certes, les deux anneaux sont ronds, mais la ressemblance ne s'arrête pas là. En fait, toutes leurs ressemblances viennent de chez Wagner. C'est le compositeur qui, en premier, fait un anneau qui, à la fois, rend tout puissant, est maudit, mais qui provoque quand même le désir de tous ceux qui en entendent parler. Ces caractéristiques réunies, on ne les trouve nulle part ailleurs. Et ce n'est pas pour rien si le terme « ring » apparaît dans les deux titres des œuvres, le même mot en allemand et en anglais, Wagner est le premier à faire de cet accessoire un objet crucial de son intrigue. Bref, ce sont les mêmes anneaux, au point que l'on peut se demander si Deagol n'était pas en train de pêcher sur les bords du Rhin et s'il n'a pas mis la main sur l'anneau de Wagner après la fin du ring. C'est cet ensemble de caractéristiques communes qui est mis en avant par ceux qui défendent la thèse d'une influence, C'est un indice très fort, mais il n'y a aucun élément concret dans la biographie de Tolkien pour étayer cette thèse. Il a laissé de très nombreuses lettres et jamais il ne parle d'une influence de Wagner. Cela nous laisse avec deux théories pour expliquer pourquoi Tolkien refusait qu'on l'associe au compositeur allemand. La première, c'est que Tolkien aurait effectivement subi l'influence de Wagner, mais indirectement, simplement par imprégnation. Après tout, il connaissait les opéras, et C.S. Lewis, son meilleur ami, l'auteur du Monde de Narnia, était un grand admirateur, lui, du musicien. Inconsciemment, il aurait donc repris des éléments de la tétralogie dans son imagination, et cela expliquerait pourquoi il refusait de dire autre chose que « les deux anneaux sont ronds et la ressemblance s'arrête là ». La deuxième théorie, elle est plus politique. Wagner est devenu après sa mort un symbole pour le Troisième Reich. Les nazis, Hitler en premier, y voyaient l'exaltation d'une prétendue pureté germanique. Or, Tolkien était ulcéré par l'instrumentalisation de cette culture germanique par les nazis. Voici ce qu'il écrit en 1941 à son fils Michael. « J'ai passé toute ma vie à étudier la culture germanique au sens large. J'ai dans cette guerre une rancune personnelle. Une rancune contre ce maudit petit ignorant qu'est Adolf Hitler. Il ruine, pervertit, fait des contresens et maudit pour toujours ce noble esprit du Nord. Cette contribution suprême à l'Europe, que j'aime depuis toujours et que j'ai essayé de présenter dans sa vraie nature. » Tolkien, qui a commencé à écrire Le Seigneur des Anneaux en 1937, l'aurait donc fait en réponse à l'œuvre de Wagner, en la corrigeant pour donner sa vision personnelle de l'esprit nordique. Cette hostilité l'aurait empêché d'admettre l'influence de Wagner quand on lui posait la question. Des théories, mais aucune réponse définitive. Et je dois bien dire qu'après des heures et des heures de recherche, j'étais un peu déçu d'en arriver à ce résultat-là. Alors je me suis tourné vers les films du Seigneur des Anneaux. Et là, j'ai trouvé un lien direct, clair et avéré avec Wagner. La trilogie de films de Peter Jackson et sa musique composée par Howard Shore. Howard Shore, c'est un compositeur canadien, il a 74 ans et il a remporté 2 Oscars pour Le Seigneur des Anneaux. Des heures de musique pour des heures de films, elle est omniprésente, elle ne s'arrête quasiment jamais et elle s'est imposée comme une des bandes originales les plus connues du cinéma. Howard Shore utilise la technique wagnérienne du leitmotiv, un court thème musical associé à un personnage ou à un concept qui facilite la compréhension de l'intrigue. On vient d'entendre celui de l'anneau, celui de la communauté de l'anneau juste avant. Cette technique, elle est associée à Wagner qui a largement contribué à la développer. Shore a écrit plus d'une centaine de leitmotifs, plus de 160 si on inclut la trilogie du Hobbit, du jamais vu ou plutôt du jamais entendu dans l'histoire de la musique de film. Lors d'une conférence à Oxford, il explique son processus de création.
C'est assez intuitif. Je l'ai fait pour la clarté du récit. Gandalf n'a pas de thème dans la communauté de l'anneau. Gandalf est un messager, il est mystérieux. Un thème lui aurait donné trop de lumière, ce que je ne voulais pas. Je voulais qu'il reste mystérieux. Dans mon processus pour créer ces thèmes, je n'ai pas toujours regardé ce que j'avais déjà fait, cherché dans mon journal pour voir, par exemple, comment le thème de Gollum était fait. J'ai essayé de faire les choses de mémoire pour faire évoluer mes idées, changer le tempo, par exemple. Il n'y avait pas de plan d'ensemble.
Et cette reprise des techniques wagnériennes, cette recherche d'une atmosphère wagnérienne, elle est tellement assumée que le compositeur rend un hommage direct à Wagner. C'est à la toute fin de la trilogie, dans le générique du Retour du Roi, on y entend un pastiche, un clin d'œil. Ce clin d'œil, on peut le rapprocher du prélude de L'Or du Rhin que je vous ai fait écouter au tout début de l'émission. C'est avec ce rapprochement que je vais vous quitter. Pour résumer cet épisode, Wagner est le premier à centrer toute une œuvre sur un anneau magique qui rend surpuissant mais qui est maudit, et il y a fort à parier que cela a influencé Tolkien, même si on n'en a aucune preuve. En tout cas, les liens entre Wagner et Tolkien existent bien dans la musique composée par Howard Shore pour l'adaptation du Seigneur des Anneaux. Bref, il y avait beaucoup plus à dire que cette fameuse petite phrase de Tolkien, et on pourrait la corriger, les deux anneaux sont ronds, mais la ressemblance ne s'arrête pas là.
C'était Retour vers le classique. Oh, merci d'avoir écouté ce stupide bijouflu d'Augustin Lefebvre. Un épisode bien goûté.
Merci Gollum. Pour en savoir plus, rendez-vous sur radioclassique.fr. Vous retrouverez les morceaux que je vous ai fait écouter en intégralité et la biographie de Richard Wagner. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous sur toutes les plateformes habituelles. Et avant de terminer, un grand merci à Pierre-Alain de Garrigue qui a des centaines de voix mais qui est comme l'anneau unique. À bientôt !